Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagiwal Mills. Dagiwal Mills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagiwal Mills.
Il faut chanter à quelqu'un, dire à la personne, je vois la lumière. Wow. Élevez vos mains. Jésus, merci, car notre promotion tant attendue se manifeste d'une manière pratique dans notre vie. Merci, parce que le miracle de notre promotion se manifeste d'une manière pratique dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que les prières qui ont été priées et les déclarations qui ont été déclarées, même le plus petit parmi nous et le plus petit parmi eux se manifestera. Les prédictions négatives ne vont pas se réaliser, mais des bonnes choses se réaliseront dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire sur toute forme de méchanceté dans nos vies. Nous déclarons la dissolution des obstacles qui se tiennent devant nous, qui nous empêchent, qui fait que nous n'arrivons pas de l'avance. Nous maudissons les blocs, les pierres d'achoppement devant nous. Nous les ordonnons à se dissoudre, à se disparaître, à se désintégrer, afin qu'ils ne soient plus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la protection de nos pieds. Tu as assuré que nos pieds soient saufs et sains. Seigneur, tu as ôté de nous la boue, la terre qui va nous faire effondrer. Et tu nous as placés sur des rocs, les rochers. Tu es notre champion. Merci pour les anges que tu as envoyés pour nous aider, pour combattre pour nous, Seigneur. Merci. Nous sommes reconnaissants pour chaque main élevée aujourd'hui, chaque cœur ouvert. Nous recevons ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, Deutéronome chapitre 8, ta promotion tant attendue. Vous vous souvenez de la chanson de Aïda, d'estimer tout ce que vous trouvez, tout ce que vous voyez comme des épreuves, comme du joie. C'est une écriture mystérieuse, ça. Qui veut tomber dans une tentation, qui veut être tenté. Oh. Mais en Jacques chapitre 1, la Bible dit, en Jacques chapitre 1, verset 2, d'estimer-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. Donc, quand on vient à l'église et nous sommes tous contents, tu vas penser que quelqu'un ne passe pas par des tentations. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui passent par des tentations. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Autrement dit, ça va marcher et ça va produire quelque chose de bon en toi. Et puis verset 4 dit, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Donc, ça veut dire que ce sera des bonnes choses, des bons produits que ces choses vont faire en nous. Des fois, les gens viennent à l'école biblique et puis, au lieu de finir leurs études, ils disent que, oh, maintenant, je connais tout, je connais ce que tu es en train de faire, je sais que tu vas dire ceci et cela. Et la fin, tu vas voir qu'ils n'arrivent pas à réussir. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses comme ça. Donc, la Bible dit de laisser la patience et son œuvre parfaite. Maintenant, Deutéronome, chapitre 8, nous allons lire jusqu'à verset 16. La Bible dit, vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères et que vous le possédiez. Maintenant, il faut remarquer verset 2 parce que verset 2 et verset 16 sont les clés. Maintenant, il dit, et tu te souviendras de tout le chemin dans ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Quand le volume s'abaisse, il faut élever ta main afin que je puisse signaler les gares. Et dire, et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans. Je ne connais pas ton âge, mais ici, ça fait 40 ans. Donc, presque tous les tests que nous traversons ont cet objectif pour nous rendre humbles. Donc, quand tu regardes dans ta vie, si tu es honnête, tu vas voir que les problèmes ont une manière de nous faire humbles. Eh bien, vous ne l'avez pas remarqué. Les épreuves nous font être humbles. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont plus âgés deviennent plus calmes. Ils n'écrivent pas trop, pas parce qu'ils se sont fâchés, mais ils ont vu certaines choses dans la vie. Et il dit, tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier. Je ne sais pas ce que tu as rencontré dans cette vie, mais si, par exemple, tu t'es marié, tu vas découvrir certaines choses. C'est pourquoi il y a certains travaux. Quand tu postules pour demander qu'on t'embauche, on va te demander si tu es marié. Parce que ceux qui ne sont pas mariés sont plus orgueilleux que ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand quelqu'un s'est déjà marié, son conjoint est déjà mort et il doit remarier, tu vois, il cherche déjà quelqu'un qui a été déjà aussi marié, quelqu'un qui est déjà humble, quelqu'un qui a été humilié. Il cherche, comment on appelle, une épouse ou une épouse seconde, mais quelqu'un qui a été déjà humilié par la vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et de t'éprouver pour... Donc, Dieu qui recherche les cœurs nous laisse passer par certaines choses pour nous éprouver. Wow! Parce que pour 40 ans, vers la fin de 40 ans, tout ce qui est dans ton cœur, ça va sortir. Et maintenant, suivant, il dit, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Tout le monde dit quelque chose qui est bon. Mais ce qui est dans ton cœur, ça prend le temps. Par exemple, quand j'étais à l'école de médecine, Dieu m'avait appelé, mais j'étais à l'école de médecine pour 7 ans. Ils m'ont enseigné beaucoup de choses. On m'a forcé d'étudier l'anatomie, la physiologie, la biochimie. J'ai disséqué un homme appelé Cornelius. Je me souviens de lui parce qu'on avait mis, quelque chose sur sa poitrine avec son nom là-dessus. Donc, J'ai appris la pathologie, j'ai travaillé sur les cadavres, comment chercher les causes de maladies qui tuent les gens. J'ai étudié la psychiatrie. Je suis allé aux hôpitaux de psychiatrie pour aller écouter les fous, parce que pour soigner quelqu'un qui souffre de la folie, il faut écouter la personne pour savoir que la personne vraiment souffre de la folie. C'est pas comme les autres maladies où on donne le médicament comme l'efferalgan et choses, non. J'ai étudié l'obstétrique, gynécologue, j'ai aidé à faire accoucher les enfants, la pédiatrie, j'ai fait la chirurgie, j'ai fait la médecine interne, hypertension, la diabète, j'ai étudié toutes ces choses-là. Donc, quand j'avais fini d'étudier toutes ces choses-là, je me suis dit, je suis pasteur. Pourquoi? Parce que ce qui était dans mon cœur, c'est ça qui était sorti à la fin. C'est pourquoi j'explique à vous que des fois, quelqu'un sera en train de donner des réponses aux questions, mais à la fin, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui va sortir. À la fin, j'étais pasteur. Après, j'ai dit au revoir à toutes ces choses, la pédiatrie, la psychiatrie, toutes ces... Donc, il faut du temps pour savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Parce que c'est pourquoi, des fois, je regarde avec pitié ceux qui viennent de se marier. Parce que, écoutez, tu viens de te marier. La fille, elle est belle. Tu ne sauras pas ce qui est dans ton cœur. C'est après le temps que tu vas voir. Elle est belle. Tu vas penser qu'elle est spirituelle. Mais avec le temps, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est dans son cœur, ça va sortir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, pour 7 ans, on m'avait fait manger toutes ces choses que j'ai appris à l'école de médecine. Mais à la fin, ce qui était dans mon cœur, c'était le ministère pour servir l'Éternel. C'est ça qui était dans mon cœur. OK, donc continuons. Verset 3 maintenant. Retournons à verset 2. Il a dit, et de prouver, et pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderas ses commandements ou non. Ceci est une de mes écritures préférées. Donc, j'aimerais que vous notiez ça. Il faut écrire ça quelque part. Des fois, quand tu passes par des épreuves et tu lis ce verset, ça va t'aider à penser comme si ce écriture était écrit pour toi personnellement. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ces commandements ou non. Et c'est là qu'on voit ce qui est dans ton cœur, si vraiment ce qui est dans ton cœur. Récemment, un de mes pasteurs me parlait d'une sœur qui luttait avec son mari. Et je dis, mais tu parles de qui? Et elle a parlé d'elle et je me suis dit, mais il y a des années, elle était si humble. Et tu ne vas pas croire ce qu'elle dit aujourd'hui. Parce que c'est après le temps qu'on voit ce qui est dans le cœur de la personne. Donc, ceux qui ne sont pas encore mariés, j'ai pitié de vous. Mais pas pitié en tant que tel, mais pour vraiment traverser cette saison de la vie, c'est complexe. Que l'Éternel vous aide. Verset 3. Et il t'a humilié. Mais est-ce que tu peux imaginer que Dieu va faire ceci à quelqu'un qu'il aime? Et t'a fait avoir faim. Vous voyez? Il dit, il t'a humilié. Il t'a laissé passer par la pauvreté, la faim. Et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue. Quelque chose que tu ne connais pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? et que tes pères n'ont pas connu afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ceux qui aiment choisir trop, je ne mange pas ça, je mange ça. On continue. Mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Quand tes pieds ne s'enflent pas et tu ne souffres pas de maladie, c'est ça, cela aussi c'est un miracle. Ce n'est pas quand tu tombes malade et puis tu reçois la guérison qu'on appelle seulement le miracle, mais quand tu ne tombes pas malade aussi, c'est un miracle. Continuons. Connais dans ton cœur que, comme un homme châtie son fils, l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Maintenant, si tu es un fils, tu dois être châtié. Si on ne te châtie pas, si tu entends seulement des bonnes choses, ça veut dire que tu es loin d'être un enfant. Ça, je peux vous dire la vérité. Si tu entends seulement les louanges et des bonnes choses, des jolies choses, ça veut dire que tu n'es pas un fils. Parce qu'une vraie famille, ce n'est pas seulement de bonnes choses. C'est pourquoi, des fois, il est difficile aux enfants biologiques d'aimer leur père et de les honorer. Parce que c'est ton père qui va te châtier. Mais ton ami et les gens que tu rencontres dehors, ils vont t'aimer, ils vont dire, « Hey, comment ça va ? Hey, mon gars !» Et ils vont vraiment sur le flot avec toi. Tout est bien. C'est ton père qui va te dire n'importe quoi. Imbécile, insensé, fille, bâtard. Est-ce que j'ai tort ou bien j'ai raison? Mais et Dieu te dit de te détourner et honorer cette personne qui crie sur toi. Oui, c'est ça. Donc, si tu ne veux pas être un enfant, tu seras là, on va te dire, ta promotion, t'en as entendu, viens. Tu vas dire, Amen. Ta promotion, t'en as entendu, viens. Tu dis, Amen, Amen, Amen. Ah oui. Et on va voir si ça va se réaliser. Oui. Combien veut être des enfants et combien parmi vous voulez être aussi des bâtards? Une fois, j'ai regardé un film, un homme était en train d'insulter quelqu'un d'autre. Et il lui dit, tu es un fils de mille pères. Ça veut dire que tu n'as pas un père, tu n'as pas de père. Tu ne connais pas ce qui est ton père. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un un bâtard, c'est vraiment une insulte. Mais un bâtard, c'est qui? Il faut consulter vos dictionnaires. Il faut consulter vos dictionnaires, s'il vous plaît. Un enfant illégitime. Il faut consulter votre dictionnaire, s'il vous plaît. Un enfant illégitime. Un enfant irrégulier. Je crois que c'était quelqu'un sans père. Ton dictionnaire dit quoi? Un enfant illégitime, un enfant inférieur, un enfant d'origine questionnable, un enfant avec des parents non mariés, un faux enfant, un enfant qui n'est pas réel. Ça, c'est un bâtard. Tu n'es pas un enfant correct. Tes origines ne sont pas claires. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, ok, alors là, je peux te châtier comme un père châtie son fils. Si tu es dans le ministère, c'est quand on te châtie et tu restes toujours là. C'est ça qui montre que tu es un enfant. Tous les gens qui s'appellent des enfants, qui sont à côté de moi, ils ont tous pleuré une fois. Si tu n'as jamais pleuré à côté de moi, ça veut dire que ton origine est questionnable. Continuons. La Bible dit que, comme verset 5, verset 6 maintenant, et garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour le craindre, verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays. Donc, toutes ces choses viennent dans nos vies parce que Dieu veut nous amener dans un bon pays. L'humiliation, les épreuves, être traité comme un enfant, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays. Un pays de ruisseaux, d'eau, de sources et d'eau profonde qui sourdent dans la vallée et dans les montagnes. Un pays qui fromme, un pays de fromme, un pays de fromme et d'orge. Ceux qui aiment acheter des brochettes ne vont pas lutter pour acheter des brochettes. Il y a certaines personnes qui partent derrière là-bas pour aller négocier pour acheter des brochettes. Mais un jour vient, vous n'allez pas négocier pour acheter des brochettes. Vous allez là-bas pour dire, donne-moi tout ce qui est sur le feu au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu t'amène à cette place, un pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers. Si tu aimes des bananes plantaines, tu seras en train de faire des frites, bananes frites tout le temps. Verset 9. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté. Le pain, tu ne manqueras de rien. Ceux qui aiment manger de poisson, oh, vous aurez beaucoup de poisson. Dans votre promotion tant attendue, il y aura du poulet, du porc. Ceux qui aiment manger ignam frites avec les ailerons, vous allez manger avec porc, piment tout le temps. Oh! Ha. Écoutez. Un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Autrement dit, il y aura de bonnes choses dans la terre. Les mines d'or. Un de mes pasteurs m'avait dit qu'ils ont trouvé sous sa maison une mine d'or. Donc, il va acheter sa maison entière. Ça sera ta destinée. Tu vas acheter une maison et puis tu vas voir que la maison devient très chère. Verset 10. Il faut remarquer, verset 9. Ok, maintenant, verset 10. Maintenant, ça, c'est la raison pour l'épreuve. Et tu mangeras et tu seras rassasié quand ton ventre est plein. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, à cause du bon pays qu'il t'a donné. Donc, tu vas remercier Dieu. C'est pas que maintenant tu vas dire que Dieu n'existe pas. Il y a certaines personnes qui sont minces aujourd'hui, mais ce n'est pas leur taille. C'est parce qu'ils mangent leur pain dans la pauvreté. C'est pourquoi ils sont petits. On a l'air, la personne est petite, mais elle n'est pas petite. Combien vont bénir l'Éternel quand l'Éternel vous bénit aussi? Verset 11. Prends garde. Maintenant, c'est l'avertissement. Écoutez, l'orgueil est la nature par défaut d'un être humain. Et tu dois tout le temps présumer que tu es orgueilleux. Combien aimera, qui aimera lutter contre l'orgueil dans votre vie? Tu dois accepter que tu es orgueilleux. Tout le temps, s'il y a quelque chose, tu dois dire que non, c'est à cause de l'orgueil. Et ça va t'aider. Donc Dieu, lui, il sait. C'est pourquoi il dit, prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel. Mais toutes ces choses, Dieu parlait de ces choses, mais toutes ces choses n'étaient pas encore arrivées. Mais il savait que ces choses allaient arriver. Verset 12. de peur que quand tu mangeras et que tu seras rassasié et que tu bâtiras de bonnes maisons. Vous voyez, des fois, c'est pourquoi des fois Dieu donne toutes ces choses à nous après les problèmes. Vous savez, maintenant, notre église a un certain montant d'argent qu'on peut utiliser, mais cela nous arrivait après nos problèmes. Aujourd'hui, je ne me sens pas comme, je me sens toujours comme un pauvre les jours où on n'arrivait même pas à acheter de l'essence pour notre voiture. Donc, on avait changé notre système de carburant. On avait placé les gaz au lieu d'acheter de l'essence. Je me sens toujours comme cette époque-là. Bien qu'il y a beaucoup d'argent à dépenser, mais c'est quand tu as souffert. Quand tu bâtiras de bonnes maisons et tu manges et tu es rassasié, tu deviens calme. C'est pourquoi quand Dieu veut te donner la promotion, il va te faire passer par le feu. Tu vas te demander, oh Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu vois. Seigneur, donc c'est ça que tu vas me faire. Après que je t'ai servi, regarde ce que tu me fais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu essaie de t'apprêter pour rester dans une bonne maison. Parce qu'il y a certains parmi nous, nous habitons aujourd'hui dans la maison à 4, ou bien maison à 6 personnes. 15 personnes avec un seul toilette. Tu dois te lever à 4 du matin pour aller faire le sel, les sels, ou bien aller s'aligner, sinon tu ne peux pas faire. Mais un jour viendra. Tu ouvres la porte et tu vois le toilette, le WC. Quand tu commences à chasser l'eau, ça commence à jouer de musique. Certains vont avoir des WC. Quand tu seras en train de faire les selles, le toilette commence à envoyer des emails emails à ton médecin. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il y a des toilettes comme ça au Japon. Quand tu seras en train de uriner, ça fait des tests de urine, ça envoie email à ton médecin que voici tel et tel et tel qui ne va pas avec ton urine. Oui! Recevez votre bénédiction. Verset 13 maintenant. Et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, vous voyez. Et que l'argent et l'or te seront multipliés. Quiconque a l'argent et l'or multipliés doit présumer déjà qu'il est orgueilleux. Et là maintenant, ça va t'aider à être humble. Et que tout ce qui est à toi se multipliera. Oui. C'est le point maintenant où Dieu vous prépare. Voici ce pourquoi Dieu vous prépare. Avant d'arriver ici, tu seras calme. C'est pourquoi on ne laisse pas les gens devenir président à l'âge de 40 ans. Parce que vous allez voir que avant que le président Akufo-Addo ne devienne président, tu vois que, écoutez, mon gars, il est devenu calme. Ce qu'il a vu là, les peines, les douleurs, il a perdu des élections par 20 000 personnes après plusieurs reprises. Maintenant, quand on te donne le pouvoir, même tu deviens calme. Tu vas gérer ça comme ça. Je ne pense pas que à l'âge de 40 ans, il allait diriger le pays pour construire une cathédrale nationale. Mais à l'âge de 60 et quelques, vers 70 maintenant, quand il était venu au pouvoir, la première chose qu'il avait dit, c'est de construire une cathédrale nationale. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Je ne sais pas, mais je doute s'il allait faire ça, s'il était venu au pouvoir à l'âge de 30 ou 40 ans. Si je le vois, je lui demanderai. Verset 14. Alors ton cœur ne se lève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est ça ce que Dieu vous voyez, ce que Dieu ne veut pas que nous tombions dedans. Que quand Dieu nous élève, on oublie des petites choses. Tu oublies d'aller évangéliser. C'est pourquoi moi, j'entre dans des petites villes pour aller évangéliser tout le temps. Parce que toute ville est importante pour moi, importante pour moi. Amen. Et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir, verset 16. Verset 15. Qui t'a fait marcher dans le désert. Grand et terrible désert de serpents brûlants et de serpents. Hey Seigneur, donc est-ce que tu ne savais pas qu'il y avait des serpents? Vous voyez, Dieu te fait passer par le désert avec des serpents. Les serpents brûlants. Les serpents qui mordent les gens. Quels sont tous ces problèmes-là? Et les scorpions aussi. Est-ce que tu as été mordu par un scorpion? Hein? Il y a un film de James Bond. Il y avait un scorpion. Il y avait le serviteur qui avait amené un scorpion dans le plat. Je pense que le titre, c'est « Les diamants sont pour toujours ».« Diamonds are forever ». Vous pouvez aller chercher ça. Les scorpions, une terre aride où il n'y a point d'eau qui a fait sortir pour toi de l'eau du roc dur. Est-ce que ce sont les choses que les gens que tu aimes, Seigneur? Si tu es très bon, des fois, si ton mari, il est excellent, très bien, c'est là que tu vois que la femme se comporte très mal. Tout est là pour elle. Tu vois, la femme se comporte mal. Si tu vois l'épouse d'un mari qui est bizarre, tu vois, la femme est très calme. Si tu vois une femme qui s'est mariée à un frère qui est comme A+, comme il y a des catégories des maris, il y a A1, A2 jusqu'à 1000. Donc, nous parlons de A1. Ça, c'est un mari super. Il est le père de tous les maris. Et un mari gagnant de tous côtés. Ce sont eux qui ont des mariages bizarres. C'est pourquoi, si Dieu n'a pas laissé quelques serpents et quelques scorpions, il allait être des hommes élevés. Les hommes orgueilleux, c'est pourquoi j'écris le livre « La beauté, la bête et le pasteur ». Si tu n'es pas un pasteur, il ne faut pas lire ce livre-là. Hey. Ah oui? Parce que Dieu va vous donner, voici l'argent, voici ça. Non, tu vas changer, mais tu ne sauras même pas que tu as changé. Donc, il va te donner deux scorpions, il va te donner un serpent. trois scorpions pour te donner quelques douleurs pour t'aider. Maintenant, écoutez. Au milieu de tous ces problèmes, maintenant, regarde, verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères n'ont pas connue? Pourquoi? Encore, l'humilité. L'humilité. Vous voyez, le premier péché dans l'univers était l'orgueil. Le premier péché dans la race humaine était l'orgueil. Lucifer. Il a dit, je me lèverai, je vais monter. Et Seigneur, je viens te chercher là-bas. Oui. Et il venait chercher Dieu. Mais il avait oublié que c'est Dieu qui l'avait créé et Dieu l'avait jeté par terre. Donc Dieu te protège de l'orgueil qui détruit. Regarde à nous au Ghana, regarde les environnements et tout ce qui se passe autour de nous. ça nous rend humbles. Nous partons à l'église. Il faut aller en Angleterre voir. Moins de 1% personne ne part à l'église. Dimanche matin, quelqu'un va aller à l'église, tu blagues ce matin comme ça pour que les gens partent à l'église en Angleterre. Jamais. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, pas de climatisé, choses là. C'est pourquoi nous sommes humbles en train de chercher Dieu. Nous sommes dans le désert. Quelques trois scorpions ici, là, quelques serpents mélangés avec tout. C'est là qu'on commence à prier. Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Notre église est pleine. Et les autres églises sont pleines. L'église est en train de... L'église a réussi. À certains endroits, l'église ne réussit pas. Parce qu'ils ne veulent pas ce Dieu dont tu parles. Dans verset 16, il dit, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin. Pour te faire du bien à la fin. Wow! Est-ce que vous êtes content de cela? Est-ce que c'est joli? Donc, toutes ces épreuves sont les chemins vers notre promotion tant attendue. OK? Donc, maintenant, l'une des épreuves que vous allez voir, j'aimerais parcourir quelques tests avec vous et puis nous allons clôturer. OK, maintenant, l'épreuve de ta sagesse, l'épreuve de ta discrétion. Amen. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Verset 13. La Bible dit, qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Demande à quelqu'un qui est sage ici parmi vous, qu'il montre ses œuvres. Tu montres ta sagesse par tes comportements. Donc, tu montres ta sagesse à travers un bon comportement et aussi tes œuvres. Parce que tes œuvres aussi montrent ta sagesse. Les choses que tu fais montrent ta sagesse avec la douceur de la sagesse. Donc, quand tu es sage, tu es humble. C'est la sagesse d'être humble, de faire attention. Toutes les compagnies séculières qui sont devenues orgueilleuses, tous se sont. Ils ont shooté parce qu'il y a quelque chose appelé. L'orgueil né de la réussite. Avant, il y avait Swissair qui venait au Ghana, ça fait 40 ans. Il ne vient plus au Ghana. Il n'arrive même pas à rester au Ghana. Tu entres dans Swissair et tu vois les attitudes, le comportement des hôtesses. Donc, Emirates, c'est une compagnie aérienne nouvelle. Donc, ils sont humbles, ils sont tout le temps pleins. Hein, c'est le meilleur compagnie aérienne dans le monde entier. Oh, je vois. Mais ceux qui sont orgueilleux, la compagnie est très grande. Ils commencent à montrer certaines attitudes. Mais la Bible dit de montrer avec la douceur de ta sagesse. Donc, il est sage d'être humble. Les sages, les maris sages sont humbles, les épouses sages sont humbles. Verset 14. Verset 14, il dit, la Bible dit, si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Tous les gens qui se querellent, vous n'êtes pas sages. Des querelleurs. Est-ce qu'il y a un mot comme ça? Querelleurs. Verset 15. ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut. Donc il y a un genre de sagesse qui vient d'en haut, il y a un genre qui ne vient pas d'en haut. J'aimerais que vous, quelqu'un consulte son dictionnaire pour nous dire ce que ça veut dire d'être sage, parce que je ne vais pas vous donner ma propre définition. Qu'est-ce que la Bible dit? Combien utilisent leur portable pour de bonnes choses? Je suis sûr que tu n'es pas la sœur dont Aïd a chanté, qui pendant le culte est tout le temps en train de fouiller son portable. Donc, quelle est la sagesse? La capacité de comprendre beaucoup de choses. D'accord, c'est bien. La connaissance de ce qui est propre et raisonnable. Un bon sens de jugement. Mais ton dictionnaire n'est pas si bon comme ça. Suivant. Quelqu'un d'autre? Ton dictionnaire dit quoi? La capacité d'appliquer la connaissance, l'expérience, la compréhension et aussi le bon sens, la capacité d'appliquer. Donc, tu connais, mais comment appliquer, n'est-ce pas? Ceux qui partent à l'école, à la Sorbonne, ils apprennent beaucoup de choses. Il y en a plein en Afrique ici, dans nos pays. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, chez nous, au pays, et maintenant, ils font face aux situations au pays. Maintenant, qu'est-ce que le dictionnaire dit? La capacité d'appliquer la connaissance, l'expérience, la compréhension, le bon sens et la capacité d'appliquer ces choses, ça c'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc tu n'as pas seulement besoin de la connaissance dont nous prêchons, mais quand tu atterris à l'aéroport, d'où tu es venu maintenant, comment appliquer les choses merveilleuses que tu avais apprises. Et le bon sens, quand tu vas te marier, comment est-ce que tu vas appliquer toutes les choses que tu as apprises? C'est ça qui montre ta sagesse. C'est pourquoi on dit il est sage ou bien il est insensé. Ou bien elle est sage ou elle est insensée. Elle n'a pas pu bien appliquer ce qu'il connaissait. La Bible dit que ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut. Donc, dans l'épreuve de sagesse, on va voir le type ou bien le genre de sagesse. C'est là où on voit la différence. C'est ici les gens commencent à chuter. Donc, lorsque vous traversez la vie, souvenez-vous que beaucoup de choses sont des épreuves. Les serpents, les scorpions étaient les tests. Le désert était une épreuve. Si on a le temps, on va passer, on va lire. Vous allez voir que dans le désert, ils sont rencontrés l'eau appelée Mara, qui était amère. Ce n'est pas le diable qui les a conduits, c'est Dieu qui les a conduits là. Eish! L'épreuve de Mara, l'eau amère, c'est pas le diable qui les ont dirigés là, c'est Dieu qui les ont dirigés là. Et là, l'eau était amère. C'est pas le diable, c'est pas Satan, c'est Dieu qui les a menés là. C'est là ils ont murmuré et ils ont échoué. C'était leur deuxième test, deuxième épreuve. Alors, Dieu m'a dirigé à plusieurs reprises au fleuve amer et je ne voulais pas boire. J'ai bu des fois quand je bois l'eau claire et je me demande mais est-ce que c'est permis à boire l'eau claire parce qu'il n'y a plus d'amertume dans l'eau. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu nous met à l'épreuve maintenant pour voir. C'est pourquoi quand vous continuez de lire Jacques, chapitre 1, verset 2, regardez, Jacques 1, 2, la Bible dit, estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, verset 5 maintenant dit, verset 5, regardez ce que, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, parce que la première chose qui sera mettre à l'épreuve, c'est comment tu appliques la parole de Dieu et comment tu mets à l'épreuve ce que tu as appris d'une manière pratique. Et c'est tout. Par exemple, chaque fille sait qu'elle doit se marier et elles sont au courant que ce n'est pas facile à se marier, mais comment appliquer ce qu'elles connaissent pratiquement, c'est ça qui va le faire se lever ou chuter. Oui. Chaque fille est au courant de ça. Tous les garçons qui veulent être dans le ministère, vous avez entendu beaucoup de choses. Après un moment donné, quand je vais prêcher, vous allez même dire que oh, je sais ce qu'il va dire. Et vous allez dire que oh, je sais, il va dire ça et ça et ça. Et bien tu vas dire que ah, ce message, même, il avait prêché ça en 1977. Au nom de Jésus, que Dieu vous épargne de cela. Mais comment appliquer cela? On commence la différence. Ah oui? Donc Dieu m'a appelé il y a des années. Et maintenant, je devrais appliquer cette sagesse, appliquer la connaissance que j'avais pour servir Dieu et qu'il m'avait appelé et tout ce que j'ai lu dans la Bible pour appliquer ces choses d'une manière pratique. Comment appliquer ces choses d'une manière pratique? C'est ça. Donc, il y a une chose qui se passe après l'autre. Et chaque réponse que tu donnes, ça va te faire monter ou chuter, ou monter ou chuter, ou monter ou chuter. Et tout dépend de votre réponse. Maintenant, la discrétion. Quand vous regardez à Proverbes, chapitre 1, verset 2, il a dit de savoir. Il dit de connaître la sagesse et l'instruction. L'instruction, c'est quoi? Il faut remercier Dieu tout le temps d'avoir des instructions. Il y a certaines personnes que je vois, j'aimerais dire, fais ceci. Il y a certaines personnes ici, il y a certaines choses que je ne vous dis pas. Vous serez même content et chanceux d'entendre ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas vous dire quelque chose afin de faire? Sinon, à la fin, ça serait un problème pour vous-même. Je me souviens d'un couple, le frère était AS, la sœur aussi était AS. Donc, quand ils voulaient se marier, donc on les avait avertis. Et à cette époque, on était tous impliqués dans les mariages. Donc, j'avais dit qu'avec les deux, vous pouvez avoir des enfants SS, drépanocytes. À partir de ce jour-là, la sœur a disparu, mais ils se sont mariés. Donc un jour, j'ai entendu quelqu'un témoigner. Elle a dit il y a des années. L'Éternel lui-même avait amené un bien-aimé et il y avait certaines voix et certaines personnes qui ont dit que ça ne va pas marcher. Nos enfants seront ci et ça, ceci, ça. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis ici pour donner gloire à Dieu. Que j'ai eu tel nombre d'enfants, tout ce qu'ils ont dit, ça n'a pas, toutes ces choses ne se sont pas réalisées. Que quelqu'un crie Amen. Oui. Et vous voyez, ce témoignage est contre moi maintenant. Petit conseil que j'ai fait et j'ai donné le conseil. Regarde ce que tu dis maintenant. Donc, Proverbes chapitre 1, verset 2 dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, il faut remercier Dieu qu'on t'avait dit. Des fois, tu vas supplier ton père spirituel de te dire ce qu'il y a à dire, mais il ne va pas dire. Verset 3. Pour recevoir l'instruction de la sagesse, la justice, c'est l'application du jugement. Quand on sert la justice a été exécutée. Il a été promu, il a été chassé, on l'a géré. Certaines personnes n'arrivent pas à faire ça. Un pasteur m'avait dit, il a dit, je ne peux pas chasser les gens. Comment est-ce que je peux chasser les gens? Moi, je peux. Et j'ai chassé les gens. Je peux chasser mes propres brebis. Ils savent que je les aime. Écoutez, presque tous les gens, toutes les personnes que j'ai chassées, à la fin sont revenues travailler. Je dis souvent que tu m'as forcé, tu me forces de te chasser, je te chasse. Je ne veux pas te chasser, mais regarde ce que tu as envie de faire. Tu me fais te chasser. Hein? Parce que ce n'est pas facile à être un pasteur et un employeur en même temps. Si tu n'es pas fort, tout le système va tomber. Donc, tu les chasses, tu dis, s'il te plaît. Donc, certains sont venus et je les ai réembauchés. Pourquoi pas? La justice. Ah oui. Un jour, il y avait quelqu'un qui parlait négativement. J'ai dit, OK, bye-bye, il faut aller. Ne laisse pas des loyaux rester à côté de toi. Les gens ne veulent pas prendre des décisions. Tes jugements sont tes décisions. Quand le tribunal décide que la partie politique NDC a gagné l'élection, c'était ça, c'est fini. Les gens n'arrivent pas à prendre des décisions. Sinon, parce qu'il est facile de briser une amitié qui brisait une relation, c'est facile à briser des fiançailles que de briser des amitiés, des mariages. Et c'est mieux de briser un nouveau mariage que de briser un vieux mariage. C'est pas facile de briser un vieux mariage. C'est plus facile. C'est très difficile à briser un vieux mariage, parce qu'un vieux mariage est très complexe. Quand la princesse Diana est morte, alors qu'elle forniquait avec ses petits amis à Paris, d'hôtel à l'hôtel, quand elle est morte, c'est son mari avec lequel ils se sont divorcés pour des années. C'est lui qui devrait aller à Paris pour aller chercher son cadavre avec un jet privé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de se marier pour longtemps. Parce que toutes ces choses ne pouvaient pas les séparer. Et quand elle était morte, et quand il passait par son cercueil, il a marché, passé par son cercueil avec ses bras croisés, humblement. Il y a certaines personnes qui se marient. Après quelques temps, ils voient que hey, j'ai fait une erreur. Et puis, ils sortent du mariage. Je peux vous donner des séries. Je peux vous donner un nombre de noms. Même des pasteurs que je connais. Mais vous serez étonnés de savoir qu'ils se sont mariés avant. Mais ils ont brisé le mariage avant. Très tôt. Je ne dis pas de briser vos mariages. Oh. Je suis en train de dire seulement que c'est facile de briser un nouveau mariage que de briser un mariage, un vieux mariage. Le jugement. Les décisions. Toutes ces choses seront mises à l'épreuve. Et maintenant, la droiture. Les gens disent que non, je vais être juste à tout le monde. Mais ce n'est pas vrai, ils ne sont pas justes. Ils disent, oh, je suis juste aux chrétiens et les musulmans aussi. Mais je suis juste aux aveugles et les muettes. Je suis juste envers ceux de l'université et ceux des lycées aussi. Donc, c'est ça qu'on appelle la droiture. Vous savez pourquoi il n'y a pas de climatiseurs ici? C'est à cause de la droiture. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'églises. Nous devons transpirer ici un peu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas même de toile. C'est pourquoi nous avons des églises partout. Si c'est seulement l'argent, pour là où nous sommes, comme ça, nous serons tous congelés ici par nos climatiseurs. Si c'était l'argent, on pouvait acheter les climatiseurs. Mais à cause de la droiture, À un certain âge, tu ne peux pas se lever pour utiliser l'argent n'importe comment. Tu seras en train de équilibrer les choses. Tu sais que si je fais ça, cela va détruire. Si je fais ça, ceci aussi va se détruire. Donc, Dieu met toutes ces choses-là à l'épreuve. Verset 4, pour donner au simple la prudence, de la prudence. Savoir quoi dire où, parce que des fois, tu vas dire certaines choses et puis tous tes secrets sont déjà dehors. Et puis, verset 4 continue de dire, au jeune homme de la connaissance et au-dessus tout, la clé que j'aimerais que vous remarquiez, c'est de la réflexion. Ouais, la réflexion, c'est ta capacité de décider seul. Tu vois, c'est ce qu'on fait quand on est seul, quand tu es sur le champ de mission, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu t'es marié et tu dois utiliser ta propre discrétion. Et c'est pourquoi tu entends les gens dire, j'ai utilisé ma propre discrétion, j'ai pris un peu de tomate. J'ai utilisé ma propre discrétion. Donc, il s'agit de toi-même. Surtout si tu n'es pas si proche au pasteur, tu dois savoir quoi faire seul. Et voici comment tu envoies les gens et ils n'arrivent pas à réussir parce qu'ils n'ont pas ce qualité. Ils n'ont pas ce qualité parce que la décision qu'ils ont prise, vous allez voir à la fin que c'était une mauvaise décision. Donc, il y a des gens dans le système qui ont besoin tout le temps de contribution constante. C'est pourquoi la Bible nous montre ce que nous devons faire. Regarde-moi quand je me mariais. Je devrais prendre une décision de me marier parce que j'étais en train de brûler. Je brûlais. Et je pouvais sentir le danger. Ça, c'est quel type de vie? Tu ressens qu'il y a du danger tout autour de toi. Il y a le feu qui brûle en toi. Soyons sérieux. La Bible dit, il est mieux de se marier que de brûler. Mais vous voyez, mais certains parmi vous, vous n'aurez pas cette discrétion. Le pasteur doit dire, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais certaines personne n'est là. Et vous serez en train de demander, vous serez en train de prier pour demander la sagesse de Dieu pour faire ce qui est juste. Si quelqu'un manque de sagesse, la personne doit demander à Dieu pour de la sagesse. Parce qu'aux différentes étapes de votre vie, vous allez faire face aux réalités. Oui. Vous savez, quand je rentrais dans le ministère, j'avais quelques aides, donc j'avais décidé de faire du business. Oui. Le business. Quel business? Le business de transport. Donc, un jour, j'avais vu quelqu'un écrit derrière son bus, prier pour des propriétaires de transport. Donc, j'ai constaté que non, cette entreprise que je viens d'entamer est très sérieuse. Était très sérieuse. Parce que je suis entré dans un domaine, je ne savais même pas. Hey! Est-ce que vous m'écoutez? Oui. La discrétion. Ce qu'on doit faire par soi-même quand on est seul. Des fois, on n'a pas la discrétion, mais on doit recevoir les instructions du pasteur, par exemple, dans le mariage. Il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi faire. Il y a certaines personnes, j'ai dit, il faut te marier à telle personne. Ce n'était pas difficile. Oui. C'est comme si, j'ai essayé moi-même, mais ça n'a pas marché. Des fois, il faut essayer de voir tes propres tentatives d'entrer dans une relation. Comment c'est difficile. Toi-même, ta relation avec des frères. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que la discrétion ne travaille pas, ça ne marche pas. Donc, tu auras besoin de l'instruction. Il va falloir qu'on te donne des instructions. Oui. Il y a certaines personnes, j'ai dit, il faut adopter un enfant maintenant. Mais peut-être que ce n'est pas arrivé dans leur sens parce qu'ils n'ont pas pensé à ça, à leur propre discrétion. J'ai dit, il faut te marier ici. Arrête ce travail que tu fais maintenant. Viens dans le ministère. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses dans la vie. Et toutes ces choses seront mises à l'épreuve partout. Je me souviens un jour, mon beau-père, je voyageais en Angleterre et mon beau-père m'avait appelé. Lui, il est expert dans les transports, l'entreprise du transport. Il a dit, mon fils, il faut garer le camion alors que tu voyages. Ça, c'est une instruction, mais selon mes propres pensées, j'ai rejeté son instruction et j'ai utilisé ma propre sagesse. Pour appliquer. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est j'ai appliqué ma propre connaissance, mon expérience. J'ai appliqué et j'ai rejeté ses instructions. Donc, je suis allé et j'ai voyagé. J'avais déjà calculé combien j'allais avoir de mon business quand je serais de retour. Au Ghana, donc je savais que j'allais avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais de mon retour, mon épouse venait d'accoucher. On était arrivé au Ghana, on était content. Bishop Saki est venu me rencontrer à l'aéroport. Il chantait, on était content. Donc on était content, on chantait. Le deuxième jour, je lui ai dit, « Ti, et le camion, c'est comment ?» Et il a commencé à me raconter les problèmes. Ce qu'on ne savait, je ne savais pas ce que. Au lieu de garer le camion quand j'étais parti, à cause des problèmes du camion, maintenant quand j'étais venu, je devais beaucoup de personnes. Je devais au moins 10 personnes. Je pouvais aller à l'église et de retour, il y a 10 personnes qui m'attendaient à la maison. Ils étaient tous là à la maison, ils m'attendaient. 10 personnes. Ah! Écoutez, je n'avais rien, je n'ai rien eu. J'étais dans les négatifs maintenant je devais. C'est pourquoi des fois tu souhaitais entendre certaines instructions. Si tu es si humble pour entendre certaines instructions, par ma propre sagesse. Vous voyez, le remorque d'un camion a une moteur spéciale pour le faire lever. Ça, c'est différent de le vrai moteur du véhicule. Et les deux moteurs étaient tombés en panne. Mais mon beau-père, avec l'expérience, m'avait dit, cette chose-là, ça va devenir telle. J'ai dit, non, j'ai deux frères chrétiens. Il y a un qui s'appelle ça, il y a un qui s'appelle ça. Ils sont là, ils vont prendre soin de ça pour moi. Je n'aimerais pas même appeler leur nom. J'ai dit, pour moi, c'est différent de ce que je suis en train de faire. Toi, tu es non-croyant, ton entreprise est différente de mon entreprise. Parce que moi, j'ai des croyants qui sont avec moi dans mon entreprise. Ah oui. Il y a des années, vous savez, quand j'étais devenu évêque, j'ai resté à l'église et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je suis évêque. Même dans les lois, la loi anglaise, dans les lois anglaises, un évêque, c'est quelqu'un qui surveille 12 églises. Donc, quand j'avais fait l'annonce, dans une semaine, l'archevêque m'avait appelé, il a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas juste.
Et j'ai dit, mais pourquoi? Mais je suis évêque parce que la Bible dit que si quelqu'un assume la charge d'un évêque, c'est une bonne chose, non? Donc, j'ai assumé la charge d'un évêque. Mais il m'a conseillé, il a dit, regarde, tu ne peux pas faire ça, ça va désestabiliser ton église. Je n'avais pas aimé ce qu'il avait dit. Mais j'avais décidé que quand j'entends les instructions de quelqu'un qui est plus âgé, je ne vais pas rejeter, je vais tout faire pour implémenter ce qu'il a dit. Donc j'avais décidé, donc cela m'a aidé. Parce que si j'utilisais mes propres pensées, je n'allais pas suivre. J'ai passé par la cérémonie pour en Angleterre pour devenir un évêque. Oui, on m'avait consacré et je lui ai dit, ok, je l'ai fait. Maintenant, après les années, j'avais l'autorité de consacrer les autres évêques. Je dis, viens, je vais faire la cérémonie. Donc, on ne se lève pas pour devenir évêque comme ça. Sinon, les gens vont se lever maintenant pour annoncer aussi qu'ils sont aussi des évêques. Un pasteur à KJB va dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis évêque. Les leaders de maintenant des cellules aussi vont se lever pour dire que, écoutez, moi aussi, je suis un évêque. Asseyez-vous, écoutez-moi. À travers votre vie, hein, votre sagesse sera mise à l'épreuve. Ta connaissance, ta discrétion, ta capacité de décider tout de toi-même. Parce que des fois, honnêtement, il n'y aura personne. Supposons que tu t'es marié, toi et puis ton épouse, vous êtes dans la chambre et vous devez faire des décisions, quoi faire et quoi ce que tu ne vas pas faire, comment manœuvrer. Et il n'y a personne là. Et puis tu vois que maintenant, le réseau ne marche pas et puis tu ne peux pas appeler quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? La discrétion. Regardez à Genèse. Est-ce que vous êtes toujours là ou bien vous êtes déjà parti? Maintenant, Genèse 37, et nous serons en train de clôturer bientôt. Genèse 37. Maintenant, Joseph, il était un homme qui avait plus que assez des épreuves. Assez d'épreuves. Quand il est devenu maintenant le premier ministre et il avait le pouvoir, il était calme. Il n'était pas orgueilleux. Il était calme parce que Dieu l'avait donné la promotion. Est-ce que c'est fantastique? Oui. Et avant de lire cela, je vais lire pour vous Genèse 49, 22. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine, des rameaux poussent par-dessus les murailles. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Donc, on a tiré sur lui plusieurs fois. Combien de personnes ont reçu des flèches? Chou! Hein? Pshou! Hey! Avez-vous regardé Rambo? Rambo avait une flèche avec une bombe attachée derrière. Et dans le film, il ne manque jamais ses cibles. Un jour, on doit aller le chercher pour lui demander quel était le secret derrière toutes ces choses-là. Ils ont dit, les archers l'ont provoqué amèrement. Il y a des fois, j'ai prêché Et je me sentais comme s'il y avait des flèches qui étaient derrière mon dos. Des fois, quand on faisait des cultes, des vagues, des miracles à collègues, non? Vous ne savez pas ce de quoi je traversais. C'était comme si j'avais un esprit, j'avais des flèches qui se pendaient autour de moi et je saignais. Et en vérité, quand je pense aux grandes victoires que nous avons expérimentées dans l'Église, je me rappelle de la tristesse des choses durant cette époque-là. Parce que quand un chien transpire ou bien un chèvre transpire, tu ne sauras pas. C'est comme si il est normal, mais il transpire. Et on tirait contre lui et l'on haït. Mais par ce message, c'est pourquoi la Bible dit, nombreux sont appelés, mais peu sont choisis. Donc beaucoup de personnes passent par beaucoup de choses, mais après ceci, ils n'arrivent pas à rester. Mais je prie que Dieu vous donne la force. Et voici les domaines que vous allez fortifier dans votre vie. Votre sagesse, votre connaissance. Je me souviens de mon épouse. Elle n'était pas mon épouse à cette époque-là. Elle m'avait dit qu'elle voulait aller en Angleterre pour étudier le droit. Et je lui ai dit, si tu pars en Angleterre, c'est fini. Parce que je ne sais pas. Tu dis que tu vas aller faire 2 ans pour aller faire le droit en Angleterre. Je ne pense pas que tu vas venir me rencontrer toujours disponible pour le mariage. Ce sont les décisions que j'avais prises à cause des choses, les expériences. Tu vois les gens qui disent, OK, toi reste ici, moi je vais rester ici. Moi, à cause de ce que j'avais vu, j'ai dit, tu sais quelque chose? Si tu bouges, elle a dit, non, je ne bouge pas, je reste. Donc elle a fait son école de droit ici. Tout droit, elle est allée à Makola, l'école de droit à Accra. Wow, c'était ça ma décision. Pas de conseil. Quand se marier, je me suis senti que non, j'étais en danger. J'avais acheté des extincteurs et maintenant même les sapeurs-pompiers me suivaient partout en ville. Comment est-ce que je vais attendre encore? Il y avait le véhicule des sapeurs-pompiers qui me suivait partout. Et j'ai dit non, c'est le temps maintenant, je devrais la discrétion. Verset 24. Mais son arc est demeuré ferme. Et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. C'est Dieu qui l'avait fortifié. De là est le berger de la pierre d'Israël. Donc, quand on tirait sur lui, piou, piou, piou. Vous n'avez pas regardé les films chinois? Quand l'homme il est en train de tomber, puis il se lève, il dit, hey, tchai, haya. Le maître de Shaolin. Verset 25. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu, ton Père. Et il t'aidera. Et du Tout-Puissant, il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme. Donc, les bénédictions de l'Éternel l'aidaient. Malgré les attaques, les choses, les flèches, Dieu l'avait béni. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas et des bénédictions des mamelles et de la matrice. Verset 26, il a dit, les bénédictions de ton père. J'aime d'autres versions qui disent, les bénédictions de ton père prévalent. Ce sont les bénédictions qui ont aidé. Il a dit, les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres. Jusqu'au bout des collines éternelles et seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. La Bible dit qu'il soit qui soit sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Quiconque ici qui a été mis à part pour les attaques, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te lève, que l'Éternel te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Joseph est un bon exemple et à travers ces exemples, asseyez-vous, je n'ai pas encore fini. Demande à ton voisin maintenant que dans ta vie, quel type de sagesse est-ce que tu vas utiliser? Écoutez, le plus grand sagesse, c'est la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Ecclésiaste 10, verset 3. Ecclésiaste 10, 3. Et même, quand l'insensé marche dans le chemin, le sens lui manque et il dit à chacun qu'il est un insensé. Qui veut dire à tout le monde que tu es un insensé? Comme tu t'introduis, tu dis, allô, est-ce que je peux me présenter à toi? Je suis un insensé. Mais pourquoi est-ce que tu te présentes à tout le monde que tu es un insensé? Parce que ta sagesse manque. Ta sagesse n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est une sagesse qui manque. Ça va te faire t'introduire aux gens que tu es un insensé. Quand un insensé marche, la Bible dit que le sens lui manque. Et il dit à tout le monde que je suis un insensé. Je m'appelle insensé Jean, insensé Joseph, insensé Robert. Tu dis que tu vois que je suis un insensé. Parce que mes décisions, ma manière de réfléchir, quand j'entends des instructions, quand on me donne de bons sens ou bien des expériences, les décisions que j'ai prises de ça, ce sont les choses. Mais en voyant toutes ces choses-là, la personne s'introduit comme un insensé. Donc, chaque jeune personne. Des fois, j'entends les gens dire que je souhaite que les jeunes là, ils écoutent le message que tu prêches là. Oublie les jeunes là. Hein? Et pense à toi-même. Toi-même aussi, les messages, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu les appliques? Et arrêter de se présenter aux gens comme un insensé. J'espère que les jeunes écoutent ce que je dis. Matthieu 11, 16. Mais à qui comparais-je cette génération? Elle est semblable à de petits enfants assis dans le marché et criant à leurs compagnons en disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes, mais vous n'avez pas malanté, car Jean est venu ne mangeant ni buvant et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent, voici un mangeur, un buveur, un ami des publicains. Et dit, et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Donc, les œuvres, ce sont ces choses qui prouvent la sagesse. Jean-Baptiste était venu, il jeûnait, il était mince. Les gens ont dit qu'il était possédé par des démons. Jésus est venu, il mangeait, il buvait. Ils ont dit, hey, l'homme là, il mange trop, il n'est pas spirituel. La femme est venue lécher ses pieds, ces choses-là. Une femme qui est un fornicateur là. Mais à la fin, Jésus a dit, la sagesse sera justifiée par ses enfants. Donc, tes décisions, tes fruits justifient la sagesse que tu as à travers ta vie. Donc, dans toute ta vie, ça va se faire montrer. Parce qu'il y aura des décisions à faire chaque année. il y aura deux ou trois choses qui vont sortir, qui vont venir. Comment, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que vous allez réfléchir pour faire sortir comment on appelle? Regarde la décision que j'avais prise de quitter le Kodesh. Aujourd'hui, le Kodesh est prêt, est plein. Il faut aller voir leur réunion de le samedi matin. C'est plein. Ici aussi, il est plein. Et aujourd'hui, comme exemple, les étudiants sont en vacances, mais l'église est déjà pleine. Donc, il faut voir comment l'église est déjà pleine même. Maintenant, j'ai brisé l'église en petits morceaux. J'ai dit, ça c'est la famille Kodesh, église famille Kodesh. J'ai brisé tout le monde. J'ai dit, il faut aller, voici votre chef. La Bible dit que la sagesse est justifiée par ses enfants. Donc, vous prenez quelle décision? Récemment, j'ai rencontré un homme. Il disait à mon épouse que ton mari est très sage. Il est sage. Il a déjà laissé l'église dans les mains des autres quand il est jeune. C'est pas quand il est fatigué. Et puis, il a dit que quand tu es vieux et puis tu commences à maintenant laisser l'église dans les mains des autres, les gens voient que tu es déjà fatigué, tu n'as plus de puissance ni pouvoir. Mais quand tu donnes le pouvoir, quand tu es jeune, c'est ça. Tu vois que tu as toujours le pouvoir, mais tu as décidé de laisser ça. C'est pourquoi nous sommes tous ici et nous attendons voir à qui tu vas te marier, parce que ça, c'est l'une de ces sagesses. Qui est-ce que tu vas mener? Nous sommes tous ici, nous entendons. Un jour, un frère avait amené un dinosaure. C'était un bébé dinosaure. Et à un moment donné, il a laissé amener un dinosaure au zoo.
Mais
j'étais étonné de voir que le dinosaure appartenait au zoo et pas à la maison. J'étais étonné. C'était ça, sa discrétion. Prendre la décision lui-même sans la contribution de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai jamais instruit. J'ai dit, ça, je vais regarder. Ce que tu vas voir, il y a certaines personnes comme ça. Je vous vois, je vous regarde, je dis dans ma tête que ça, ce signe que je viens de voir, ce n'est pas bon, mais je ne peux pas dire. Parce que si je dis, tu vas aller dire que l'évêque a dit. L'évêque a dit qu'il est contre toi. Moi, je suis contre quelqu'un. Il faut prendre ta propre décision. Parce que la sagesse est justifiée. Qui va se présenter au monde et pour dire que je suis un insensé? Comment est-ce qu'on se présente aux gens que nous sommes des insensés? Par quoi? Par ta propre sagesse. Quoi? Quand le bon sens te manque, parce que la sagesse, c'est l'application de tout ce que tu connais. Est-ce que vous êtes toujours là? Dis à la personne assise à côté de toi que je vais appliquer les choses que j'entends. Il faut me regarder seulement. Wow! Et finalement, Genèse 37. Et ça, ça devrait être le commencement du message d'aujourd'hui. Donc au moins, commençons le message d'aujourd'hui. Genèse 37. Alléluia. L'épreuve de sagesse. Numéro 1. Ta capacité. Vous avez trouvé Genèse 37, verset 3. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse. et il lui fit une tunique bigarrée. Première épreuve, comment gérer une tunique bigarrée.
Wow.
Wow.
Hein?
Hmm?
How do you handle a coat of many colors?
Comment est-ce que tu vas gérer une tunique bigarrée?
Love. How do you handle Curtis when I meet
L'amour, Curtis, comment tu gères quand je te fais chanter en hymns? Ou bien Kobe G. Ou Denzel. Vous tous, comment est-ce que vous gérez une tunique bigarrée?
Hein?
Un frère te demande la main en mariage. On te donne une petite faveur. C'est une petite chose. Tu commences à marcher avec les épaules levées. Tu passes comme ça devant tes frères, il voit, il dit, oh, il y a certaines choses, tu ne dois même pas les porter. Tous ces problèmes ont commencé à partir de cette tunique. Regardez, toute sa vie a détérioré à cause de cette tunique. Il y a des tuniques que je pouvais porter. Pourquoi est-ce que tu ne portes pas cela? Tu sais, je ne vais jamais porter ça. Il y a certaines choses, quand Dieu te bénit avec, ce n'est pas le temps de commencer à faire montrer à tout le monde. Tu es devenu maintenant un danseur de ballet. Une petite faveur. On t'invite ici. On t'appelle. On te sélectionne. On te donne une opportunité. Fais ceci pour moi. Il faut aider. Petite faveur. Tu as commencé à faire montrer au monde. Tu as appris maintenant comment faire les ballets pour faire montrer aux gens. Venez ici, toi. Agenouille-toi. Je vais prier pour toi. Maintenant, tu dois utiliser ta connaissance. Quand Jésus était avec ses frères ont dit, il faut aller te montrer aux gens. Il a dit, non. Ces personnes sont méchantes. Même ses propres frères n'ont pas cru en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu te donnes. Oh, les batailles de sa vie, tous étaient venus à cause de cette tunique. Des fois, tu pries pour certaines choses et Dieu ne donne pas. Si Joseph n'avait pas cette tunique, il allait être un frère ordinaire comme les autres. Aïda, elle chante pour moi, ça fait déjà 12 à 15 ans. Moi, je n'ai pas des gens qui travaillent avec moi pour des moments courts. On travaille ensemble jusqu'à la mort. C'est pas, mais qu'est-ce que je peux faire avec nous? Petite promotion. Petit argent. Hey! Maintenant, il y a un changement. Tu commences à te comporter d'une manière bizarre. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y en a plein. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. Chaque chose qui s'est passée, une autre chose. Et à chaque fois, il s'agit de ta manière de penser. Tu es en train de faire quelque chose à l'école. Tu dois penser correctement et puis avoir des bonnes notes. Écoutez, j'étais l'un des meilleurs dans ma classe quand j'étais à l'école de médecine. J'ai emporté
le prêt de pathologie. Je faisais partie des cinq premiers à l'école de médecine. J'ai ma lettre là-bas maintenant. Mais ma manière de penser, ce que j'allais faire avec ces choses-là. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs tuniques bigarrées. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc à partir d'aujourd'hui, on va voir si tu es sage ou bien tu es insensé. Mais quelles sont les choses sur qui Dieu va te mettre à l'épreuve? Ta connaissance, ta compréhension, ton intelligence. Intelligence, c'est quoi? C'est la largeur de ta réflexion. L'expérience, et puis? Quoi? L'intelligence, l'instruction. Ce que tu fais avec la justice. Oui. La droiture. Ce qui est juste.
Ouais.
C'est pas juste si tu t'habilles correctement de dehors pour nous impressionner, mais à la maison, tu ressens très mauvais. Si tu enlèves les cheveux maintenant, ta tête devient comme un noix de coco, ou bien ta tête devient comme des... Ça, ce n'est pas la droiture, ce n'est pas la justice. Tu montres quelque chose de dehors, mais à l'intérieur, c'est différent. Le jugement. Dieu est en train d'évaluer ton jugement. Donc, faisons un demi-tour pour savoir. Donc, ta sagesse, c'est comment appliquer tout. L'instruction, ce sont des paroles claires de fais ceci, fais ceci. Maintenant, l'intelligence, c'est la latitude, la largeur de ton intelligence. Si je te dis de balayer ici, ce n'est pas parce que je te méprise. Il faut aller voir les gens que je demande de balayer pour moi. Ce sont des médecins, des avocats. J'ai un gérant de banque qui me conduit. Quand je l'appelle un chauffeur, ça ne veut pas dire que je suis en train de le mépriser. C'est ton intelligence. Comment tu comprends les choses qui va te faire même content que quelqu'un t'appelle un chauffeur? La justice, le jugement. Être juste. Regarde comment tu sautais avec tes petites amies quand tu étais dans le monde. Aujourd'hui, tu t'es marié. Regarde ce que tu fais à ton mari. Est-ce que c'est ça la justice? C'est un bon jugement? Avant, tu sautais pour, comment on les appelle. Avant, tu montais les chevaux. Et aujourd'hui, c'est lui qui est venu mettre l'alliance sur ton doigt. Tu te comportes comme un cadavre. Est-ce que c'est ça la justice? Il faut continuer. La justice, c'est quoi? L'implémentation de... L'implémentation de la justice. Et puis la droiture, ça c'est équilibrer les choses. Et puis la réflexion. La connaissance et puis la discrétion. Tu décides toi-même sans la contribution de l'autrui que tu vas faire ceci et cela. À partir d'aujourd'hui, je communique à vous l'esprit de bonne discrétion au nom de Jésus-Christ. Restez debout tout le monde. Wow. Êtes-vous content que vous êtes venu à l'église? Qui attendent sa promotion tant attendue. Levez vos mains et remercions le Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu nous élèves, tu nous aides, tu nous bénis. Oh, nous te donnons gloire. Nous te donnons louange. Nous te louons. Demande à Dieu pour la discrétion. les décisions de prendre quand tu es seul. Qu'est-ce que tu fais? La bonne discrétion. Recevez-le maintenant. Recevez la sagesse pour mettre en application ce que tu entends. Recevez l'instruction, la droiture, le jugement, la justice. Dieu te donne ces choses. Père, nous te donnons gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Toutes
les yeux fermés, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Pasteur, s'il te plaît, priez pour moi. Aide-moi. Je veux que Jésus me sauve. Je veux que Jésus sauve ma vie. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Si tu es là comme ça, élevez les mains, j'aimerais prier pour vous. Pasteur, prie pour moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vois ta main déjà. Je n'aimerais pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer est réel. Et Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que ça qu'un homme laisse sa vie pour les autres. Jésus a laissé sa vie pour vous. C'est pourquoi je vous demande, si vous voulez que Jésus vienne dans votre vie, afin que Jésus vienne changer votre vie, si c'est ça le cas, j'aimerais que tu élèves ta main droite. Si tu as élevé ta main droite, je veux que tu marches vers moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez vite, venez. Élevez vos mains. Répétez cette prière, dites Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. J'ouvre mon cœur, je reçois Jésus comme mon sauveur, comme mon maître, comme mon sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. S'il te plaît, lave mes péchés dans le sang de Jésus. Je te rends grâce, ô Dieu, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.